Bonjour, c'est avec un plaisir renouvelé que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui dit-on est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour à tous, bonjour Michel.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio. C'est un grand cheval venu de Russie, un géant placide, ce qui ne l'empêche pas d'accomplir des performances sportives, brillantes et de très haut niveau. Il est issu d'une série de croisements avec d'autres races de chevaux et eut longtemps la réputation d'être le cheval de trot attelé par excellence. Nous avons intitulé cette émission « Le trotteur Orlov ». Alors, Virginie, est-ce que tu pourrais faire une petite rétrospective d'Alexis, puis c'est son prénom, d'Alexis Orlov?
Oui, Michel, car Orlov, comme le nom de ce cheval, nom donc aux consonances russes, c'est également celui d'une célèbre fratrie et qui a été très importante dans l'histoire de la Russie à la fin du XVIIIe siècle, puisque Alexis Grigorievitch Orlov, 1737-1808, appartient à l'aristocratie russe. C'est un soldat qui a participé à la guerre de 7 ans, un géant de 2 mètres de haut dont la joue porte une cicatrice qui lui a valu le nom de Scarface bien avant Al Capone.
D'accord. Alors la Russie traverse une période politique pour le moins agitée à ce moment-là.
Tout à fait. Puisque Alexis et ses 4 frères va participer au coup d'État qui renverse le tsar Pierre III et porte sur son trône son épouse Catherine, qui va devenir célèbre sous le nom de la Grande Catherine.
La Grande Catherine, oui.
Donc le comte est d'ailleurs chargé de surveiller le tsar déchu et les rumeurs, Michel, ont fait même état qu'il a participé à son assassinat en 1762 puisque Pierre III est mort dans des circonstances mystérieuses.
Tout à fait, oui.
Alors avec son frère Grigori, qui est un des favoris de l'impératrice, il bénéficie de la reconnaissance de la nouvelle tsarine et de ses largesses financières, puisqu'il est également promu au rang de major général et reçoit le titre de comte. Il sera commandant en chef de la flotte de la mer Noire, participera à de nombreuses campagnes militaires et opérations délicates, comme l'enlèvement d'une prétendante au trône. Et puis, comme tous les favoris, les deux frères tomberont en disgrâce et sont relevés de leurs fonctions en 1775.
Alors, juste un petit détail, préciser que Pierre III, effectivement, était un type complètement malade, enfin, vraiment psychologiquement malade, quoi, s'il tournait pas rond, voilà. Vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Messagers du Cheval. Hein. Alors, les esprits d'Europe occidentale et russe sont pénétrés des théories scientifiques et sociales nées en France au cours du siècle des Lumières. C'est pour l'Europe et la Russie une période d'émulation, et pour Alexei Orlov, c'est le début d'une longue carrière d'éleveur.
En effet, comme on l'a précisé tout à l'heure, Alexei Orlov avait reçu de Catherine de d'immenses domaines. Et pour cet homme passionné par les sciences, qui correspondait avec Jean-Jacques Rousseau, l'idée germa de se lancer dans l'élevage. On dit qu'il aurait créé 70 races d'animaux, dont le lévrier russe, connu sous le nom de Barzoï, des chevaux dont nous allons parler, et des poules. Et tous portent son nom.
Voilà, Orlov. Justement, donc cette fameuse poule à crête frisée, c'est issue du croisement d'une poule russe et d'une poule de Perse. Voilà. Mais c'est bien sûr ces chevaux auxquels nous allons nous intéresser. Alors, concernant la qualité des chevaux russes, le comte d'Orlov commence par dresser un constat plutôt mitigé, pour ne pas dire négatif.
Tout à fait. Il était conscient qu'il manquait en Russie un cheval endurant et rapide, capable de voyager loin, en terrain difficile, et de supporter les rigueurs du climat russe. Donc les races européennes avaient montré leurs limites. Orlov, qui était un grand connaisseur en chevaux, savait reconnaître ce qu'il fallait, et donc tous les gens qu'il côtoyait lui offraient des chevaux, ou lui-même achetaient des chevaux de très grande qualité. Et l'on sait que lorsque la flotte russe était à l'ancre dans le sud de la Grèce, il fit acheter des chevaux en Égypte et en Arabie, pour lesquels il paya des sommes considérables et qui étaient tous envoyés par bateau en Russie.
Absolument. Donc là encore, on voit toujours, et Orlov n'est pas le seul, cette passion du cheval oriental, en fait,
hein, oui, qui est l'améliorateur universel. Qu'on avait évoqué avec la Pologne, entre autres.
Voilà, c'est cela, voilà. Alors, il va faire ses courses, si je puis dire. Alors, c'est un petit peu compliqué. Et il trouve un cheval particulièrement formidable. Donc, il y a, je crois, le nom de Smetanka.
Oui, Smetanka est le seul cheval qui, lui, n'a pas pris le bateau pour aller en Russie. Et il est arrivé en 1776 à Moscou, après avoir traversé la Turquie, la Hongrie et la Pologne, sous la protection de gardes armés et d'un dignitaire de l'Empire ottoman. Puisque Smetanka a été acheté à un grand dignitaire turc. Donc c'est un étalon arabe gris-argenté qui sera l'ancêtre de tous les trotteurs Orlov.
Absolument. Oui.
On dit que le comte paya de 50 000 à 60 000 roubles pour l'étalon, faisant de lui le cheval le plus cher de toute la Russie. Donc, à titre de comparaison, Michel, en 1760, le cheval d'un grenadier de l'armée russe coûtait 30 roubles. Un manoir avec une douzaine de serres et plusieurs centaines d'hectares coûtait 1000 roubles.
Alors, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Ces 50 à 60 000 roubles, c'était à l'époque la valeur d'environ une tonne et demie d'argent métal. Donc, c'est plus que cassé, ça tirelire. Hein.
Tout à fait. Ça en dit long aussi sur la fortune d'Orlov.
Ça dit long sur ses grands propriétaires terriens. Voilà. Alors, les sélections et les achats, parce qu'il a la vista, cet Orlov, donc ces achats qu'il réalise commencent à porter leurs fruits. Le grand éleveur sait désormais où il veut aller et surtout comment y aller. Et pour atteindre son objectif, il va engager des moyens financiers dont les montants seraient envisageable aujourd'hui, mais il bénéficiait du soutien de l'impératrice de Russie. Donc, ce qui l'a beaucoup aidé.
Alors, Orlov s'installe à Krenovoye, près de Voronzhev, au sud de Moscou. C'est un immense domaine que lui a offert Catherine II. C'est une végétation de steppe sur laquelle vivaient des tarpans, les chevaux sauvages russes, qui bénéficient d'un climat sec. C'est donc une terre d'élevage parfaite. Et là, on voit bien que c'est un grand éleveur. Il fait pas ça que pour s'amuser.
Oui.
Et donc, pour trouver le cheval idéal, robuste et beau, il va essayer plusieurs croisements. Donc, on sait qu'en 1772, Orlov possédait 20 étalons et 32 juments d'origine anglaise, 12 étalons et 10 juments arabes, 3 étalons et 2 juments persans, 1 étalon et 8 juments hollandais, 1 étalon et 3 juments danois, un étalon et 5 juments Mecklenburg, ainsi que d'autres étalons dont on ne connaît pas la race, et 17 juments, dont des chevaux napolitains.
Voilà, alors on précise juste à nos auditeurs que le Mecklenburg était un état qui se trouvait au bord de la mer Baltique. Voilà. Donc, on va peut-être s'accorder une pause musicale maintenant, avec le prologue, ce que tu as choisi, Virginie, le prologue de La Belle au bois dormant, de, évidemment, un russe, Tchaïkovski. Alors, deux chevaux ont été les piliers de l'élevage du comte Orloff. Et que sait-on sur eux, en fait?
Alors, ce sont deux étalons, Smetanka, dont nous venons de parler, et Saltan. Et tous les deux sont à l'origine de deux lignées différentes. Alors, les descendants de Saltan sont des chevaux qui sont destinés à l'armée, alors que ceux issus de Smetanka sont à l'origine du cheval de sel Orloff, qui a disparu, hein, qui n'existe plus, et du trotteur du même nom. Alors, Smetanka, qui veut dire crème en russe, était gris-argenté. Il avait des jambes plutôt courtes et un dos long, ce qui est caractéristique de la race arabe. Et cela dû à une paire de côtes supplémentaires, comme révélera son autopsie. Car Smetanka ne vit pas très longtemps une fois arrivé au Hara. Il meurt en effet un an après son arrivée. Cependant, il donnera à Orloff quatre produits. Donc je rappelle que les produits en termes d'élevage, ce sont les descendants des les poulains, les pouliches.
Voilà, absolument.
Donc quatre produits, une jument et trois étalons, dont Paul Kahn, 1778-1793, en croisement avec Isabelline, une jument danoise issue du Hara royal de Frederiksborg. Si Paul Kahn était de belle apparence, son trot laissait à désirer.
Ah oui, elle n'avait pas un trot formidable, d'accord.
Non, c'est un étalon, hein, Paul
oui,
Kahn.
Oui, il, pardon, oui.
Donc, ça ne suffit pas à Orloff. Mais néanmoins, le cheval est beau. Donc, il va croiser Paul Kahn avec une jument frisonne grise, qui est une couleur assez inhabituelle pour la race, mais qui est de bonne conformation. Et de cette union va naître Bars Ier en 1784. Et Bars, Michel, est considéré comme le premier trotteur Orloff.
Donc officiel cette
officiel.
Fois-ci. D'accord.
Alors, il fait 1m62 au garrot. Il possède un trot rapide, contrairement à son père. Et allié avec une noblesse d'allure qui va être caractéristique de cette nouvelle race. Donc, Chichkin, le directeur du Hara, le décrit en ces termes, je le cite... Il était grand, bien équilibré, léger et puissant, et avait une superbe amplitude au trot. Alors, le comte Orloff va essayer de consolider les qualités de Bars à travers donc tous ses produits. Il fait saillir son étalon avec des juments de même conformation, dont des Arabes, des Danoises, des Hollandaises, ainsi que des demi-sangs anglais et des croisements arabes-Mecklenburg. Il évitait cependant très soigneusement toute forme d'inbreeding.
Alors, je peux dire une
Bien
chose
sûr.
Sur l'inbreeding. C'est un terme anglais qui signifie consanguinité. Et c'est également une technique qu'utilisent certains éleveurs qui consiste à croiser volontairement des animaux issus de parents communs qui ont un lien de parenté direct entre eux. C'est par exemple une jument que l'on croise avec son frère, un étalon avec ses filles. Et on peut imaginer toutes les combinaisons possibles. On sait que cette technique peut être très, très dangereuse pour affaiblir une race
voilà,
de
chevaux. Voilà, il faut la manipuler avec beaucoup de précautions.
Beaucoup, beaucoup de précautions, oui.
Alors, Bars Ier produisit 11 étalons, dont le noir Ljubensny, 1784-1811, et le gris Lebed Ier, 1804-1822, qui auront une influence significative sur la race. Donc Michel, en trois générations, Orloff avait réussi à établir ses principales caractéristiques, ce qui est exceptionnel.
Ah oui, il était exceptionnel, enfin c'était un magicien presque, enfin quelqu'un qui connaissait son affaire. Alors revenons donc au comte d'Orloff bien sûr, et grand éleveur, il était aussi un grand entraîneur.
Voilà, alors il avait, alors c'est ça qui fait que c'est un homme particulièrement intéressant. Donc, qu'une race émerge est une chose. Qu'on réussisse à en avoir une production aussi significative en être une autre. Mais pour ça, c'est dû à un élevage très strict. Et 3000 chevaux vont passer au Hara. Et ça montre à quel point Orloff a fait des recherches. Alors, à la différence des autres nobles russes hein, qui sont passionnés par les chevaux, Orloff, lui, c'est un vrai professionnel. Alors, les chevaux étaient élevés dans la steppe et bien nourris. Et cela a contribué à les endurcir. Car une sélection rigoureuse renforce leur qualité. Alors, ils suivaient un programme d'entraînement très strict sur des distances courtes de 400 mètres, puis longues de 20 à 22 kilomètres. Aucun cheval n'était utilisé à l'élevage s'il ne possédait un trot rapide et endurant. C'est le premier critère.
Donc, une forte sélection, quoi.
Voilà. Mmh. Et ensuite, il devait répondre à des critères de conformation et d'esthétisme très précis. Car Orloff voulait aussi des beaux chevaux. En même temps, il est extrêmement protecteur. C'est-à-dire ces chevaux.
Ça, c'est quelque chose de sympathique. Oui, hein, oui. On a l'impression de la mère poule avec ses poussins.
Voilà, et puis surtout conserver l'animal, éviter la dispersion du sang.
Voilà.
Et il refuse de vendre ses étalons, même au tsar Alexandre Ier. Et il ne cédait que des Hongres.
Oui, ça, il était tranquille.
Et cette politique lui a survécu 20 ans après sa mort.
Voilà. Alors, juste une petite chose. L'empereur Alexandre Ier Paviovitch était le petit-fils de Catherine II. Voilà. Alors, la noblesse russe appréciait les courses de traîneau en hiver, un sport que le comte Orlov contribua à développer. Parce qu'il a aussi fait ça, le comte Orlov.
Tout à fait.
Quel diable d'homme.
Il a impulsé un nouvel élan aux courses organisées de façon régulière, parce qu'il y a toujours eu des courses. Mais la régularité des courses, c'est quelque chose qui lui est propre. Et notamment les courses sur la glace des rivières gelées qui faisaient le bonheur de la noblesse russe. Et en 1834, une société du trot fut créée. Donc les trotteurs Orlov, dont le studbook a été ouvert en 1865, ont régné sur les pistes jusqu'au début du 20e siècle, avant d'être supplantés par les trotteurs français et américains.
Alors vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Messagers du Cheval. Virginie, voudrais-tu nous faire le portrait de ce cheval tel que nous pouvons le voir aujourd'hui encore?
Alors c'est un cheval robuste et haut sur ses membres, avec une ossature légère, bien proportionnée, conférant à sa silhouette des formes harmonieuses. Ses membres doivent être longs et très résistants. Il a un dos long, large et plat, des reins forts, une croupe longue et bien musclée. On distingue l'influence arabe dans les yeux et la largeur du front, ainsi que dans les petites oreilles bien écartées. L'encolure, souvent en col de cygne, est longue, musclée et très élégante. La nuque et la crinière sont longues et épaisses. Les croisements avec la race hollandaise, malheureusement, ne lui ont pas toujours été bénéfiques, car on a pu voir chez certains sujets un manque de profondeur au passage de sangle, des membres trop longs et des tendons trop faibles, mais qui ont été corrigés chez le trotteur Orlov actuel.
Donc moderne, hein, c'est
moderne,
ça,
voilà,
tout à fait. Et alors, quelques mots sur les principales couleurs.
Alors, la principale couleur qui témoigne de l'influence arabe est le gris. 46% des trotteurs d'Orlov sont gris. Ensuite, on trouve 28% de noir, 20% de baie et 5% d'alezan.
Alors, nous avons l'impression que ce cheval peut tout faire en gardant tout son calme aussi. Enfin, psychologiquement, il est bien équilibré, ce cheval.
Ah oui, c'est un cheval qui a un très bon tempérament et qui met beaucoup de cœur au travail. C'est pour ça qu'il a été très recherché et qu'il continue de l'être, même si la situation n'est pas aussi florissante qu'au XVIIIe et XIXe siècle.
Donc c'est un cheval polyvalent, quoi.
Tout à fait.
D'accord, d'accord. Et donc qui met du cœur pour travailler, enfin pour faire ce qu'il a à faire en tant que cheval. Alors, est-ce que ce trotteur n'est-il pas arrivé aujourd'hui à la fin d'un cycle, si l'on regarde le chiffre des effectifs, ou voyons-nous au contraire s'amorcer un nouveau rebond? Où il en est le Orlov, puisqu'effectivement les trotteurs américains ou anglais, évidemment, sont très réputés maintenant sur les champs de course.
Alors, après la mort du comte Orlov, il y a eu beaucoup plus de croisements. Et de ce croisement est né le trotteur russe, un cheval plus lourd mais plus rapide. Ensuite, la race en tant que telle a été en danger d'extinction. En 1910, il n'y avait plus que 10 000 étalons Orlov et 100 000 juments en Russie. En 1985, leur nombre est tombé à 54 000. Donc en 1997, les choses étaient au plus bas, car avec la réduction des aides à l'élevage que donnait l'État, on ne comptait plus que 800 juments et sur les 1000 individus de la race, donc à ce moment-là considérés en danger. En 2014, il restait 15 haras en Russie et en Ukraine qui se consacrent à leur élevage, y compris à Krasnoïe, là où la race est née. Heureusement, parce que le trotteur Orlov est un cheval polyvalent qui peut être monté et réussir à un haut niveau, les choses commencent à changer. Alors on a un exemple, hein, comme l'étalon Balagour, qui a été le numéro 21 en mondial en dressage individuel et qui est considéré comme le meilleur cheval de dressage en Russie, et Saturn, qui est devenu le champion de Russie en jumping. Par ailleurs, les trotteurs Orlov continuent toujours de courir sur les hippodromes et on a pu voir en février 2016 à Vincennes 5 trotteurs Orlov qui sont venus participer au Grand Prix de France, ce qui a permis également de faire la promotion de la race. Et puis depuis 1996, une conférence annuelle se réunit chaque année en Russie rassemblant des spécialistes et de nouvelles compétitions réservées aux trotteurs Orlov avec des allocations, c'est-à-dire des prix en en bon argent. Hein,
en bon argent, en rouble.
En rouble, ont été également mises en place. Donc on peut espérer que le trottoir Orloff continue à survivre.
Voilà, donc en rouble et pas en copec. Nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Radio 107.9. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique Les Messagers du Cheval. Un grand merci à toi Virginie de nous avoir mieux fait connaître le cheval d'Orloff, ce trotteur d'exception qui a su enchanter de nombreux turfistes et qui en enchante encore. À la semaine prochaine et un grand bravo à tous les chevaux. We'll